Nous allons continuer dans notre série d'études de 1 Thessaloniciens et nous allons lire au chapitre 2, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et les premiers 4 versets. En fait, pourquoi pas lire les 12 premiers versets ? Puisqu'on va faire référence à certaines choses là. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous allons lire les 12 premiers versets. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Verset 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice pas prendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous, nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, l'apôtre Paul fait référence à ces premiers moments quand ils sont arrivés à Thessalonique et ils sont arrivés dans un état physique, ils étaient en mauvais état parce qu'ils venaient de Philippe où ils avaient passé des moments difficiles. Nous avons le sentiment ici que l'apôtre Paul essaie de se défendre. Il y a eu peut-être des accusations, des gens qui disent « Ouais, c'est Paul et tout ça, il vient comme ça et puis il récupère l'argent, et il aime bien être chef. » Il y a des gens, il y a toujours des mauvaises langues, vous savez. Quand on est dans l'œuvre de Dieu, il faut compter dessus. Hein. Mais remarquez comment Paul répond. Il ne donne pas le nom de ceux qui ont parlé contre lui. Il ne dit rien contre eux. Il ne dit pas que c'est des voyous et des bons à rien et puis c'est des menteurs eux-mêmes. Non, non, il répond seulement. Sans critiquer. Hein. On n'a pas besoin, hein, si on marche droitement, on n'a pas besoin de démolir à côté de nous pour se justifier. Si on est juste, eh bien nos œuvres nous justifient. Et on n'a pas besoin de parler de ce que les autres ont fait. Hein. Trop souvent, hein, les gens, quand ils... vous dites quelque chose, ben, tout de suite, il va chercher quelque chose chez vous qui ne va pas. Ben, si c'est vrai, écoute. Si ce n'est pas vrai, eh bien, dis, écoute, voilà ce que je fais. Vous avez remarqué aussi, ici, dans ce premier verset, il emploie le mot « frère ». Et en fait, si vous faites une lecture rapide de l'Épître, vous allez voir qu'il emploie le mot « frère » très souvent. Même, je pense que vous allez trouver 7 fois. Le mot « frère », c'est le terme que les chrétiens emploient entre eux. On dit frère et sœur. Hein. C'est le mot frère, là, c'est le mot large, mais en fait, c'est frère et sœur. Hein. Nous sommes frères et sœurs. Et nous sommes frères et sœurs avant tout, hein, si nous sommes en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit à ses disciples, il dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors peut-être au début ils étaient serviteurs, mais Jésus dit « Mais je ne vous appelle plus serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis. Pourquoi ?» Parce que le maître, il dit pas à son serviteur ce qu'il fait, ses projets, où il va partir en vacances. Non, il dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça aujourd'hui. J'ai besoin que ça soit terminé pour demain. Voilà, c'est tout ce qu'il lui dit. Il dit pas ce qu'il a comme projet. Mais un ami, on partage. Il dit, moi, je vous traite pas comme serviteur, je vous traite comme ami. Je vous dis ce que je vais faire. Et là, c'est Jean chapitre 15. Et vous savez que le début du chapitre 16, il dit « Moi, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Hein, je reviendrai, je vous prendrai. Hein, » Donc, il a dit « Moi, je ne vous traite pas comme serviteur ou rien que juste avec politesse. Non, non, vous êtes des amis. Je vous fais savoir ce que j'ai dans mon cœur. » Et ce jeu qui est pour nous. Et ça, c'était avant la résurrection, il dit « Je vous traite comme ami. » Mais dès que Jésus est crucifié, enterré et ressuscité, vous savez qu'il y a un moment où il y a Marie de Magdala qui est à la bouche de la tombe et qui pleure. Et Jésus s'approche, je ne le reconnais pas au début, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais Jésus parle à Marie et dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. » Il n'a pas dit mes amis. « Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il y avait serviteurs. Après, Jésus a dit « Vous êtes devenus des amis. » Mais après la mort et la résurrection, tout d'un coup, parce que le péché est enlevé, parce que c'est une relation nouvelle, possible, eh bien Jésus commençait à appeler ses disciples des frères. Et il a dit, vous êtes mes frères, et puis notre Père, c'est mon Père et c'est votre Père. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, puisque nous on est après la croix, après la résurrection de Christ, eh bien on a le droit, c'est pas rien que seulement un souhait, mais on a le droit de se considérer frères et sœurs en Jésus-Christ et de nous adresser à Dieu en tant que Père. Le Seigneur nous appelle frères et sœurs, c'est parce que nous le sommes. Hein, c'était pas juste comme ça. Non, c'est parce qu'on est vraiment. Hein, on est né du même sang, du sang qui a coulé sur la croix. Hein, on est du même sang. Et donc, et on est né du même esprit, l'esprit de Dieu. Hein, la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Hein, donc, ce n'est pas la chair. Après, il y a ceux qui sont frères et sœurs par la chair, hein, biologique, comme on dit, de nos jours. Et puis après, il y a ceux qui sont frères et sœurs de la nouvelle naissance. Et là, c'est une nouvelle relation. Et si nous sommes appelés frères et sœurs, nous avons le droit de nous appeler frères et sœurs, c'est parce que c'est vrai. Hein? Et si nous sommes enfants de Dieu, hein, si on est frères et sœurs, si on est enfant de Dieu, eh bien, il faudrait commencer à se comporter comme des enfants de Dieu. Il faut se comporter tous les jours, peu importe où on est. Papa est là, papa n'est pas là, c'est pareil. Je fais ce que papa dit. C'est normal. Les gens voient Dieu, ils ne le voient pas, ce n'est pas un problème. Moi, je vis selon en obéissance à mon Dieu. Vous savez, ce qui peut arriver aussi, vous savez, même dans une famille, hein, les frères et sœurs peuvent se reprocher des choses. Ça arrive, hein, parce que bon, même dans une famille, les frères et sœurs, ils ne sont pas parfaits. Ils sont très différents les uns des autres. C'est étonnant, hein, comment ils peuvent naître d'un même père et d'une même mère et très différents. Ils ont des défauts différents, ils ont des caractères différents, ils ont tout ça. Ils peuvent se reprocher des choses. mais on le fait dans la famille. Quand tu es devant les autres, on ne le fait pas. Ce n'est pas au marché qu'on donne des corrections à notre frère. C'est à la maison. On va rentrer à la maison. Écoute, on va rentrer à la maison, on parlera là-bas. Hein, ou papa et maman, il dit, c'est pas devant les enfants qu'il irait, on va aller dans la chambre, on va parler. C'est les choses, on n'est pas là pour démolir, on est là pour construire. Hein, et quand on le fait dans l'intimité, on est en train de dire à l'autre tout de suite, écoute, moi je cherche ton bien. Quand on le fait devant tout le monde, ça veut dire je veux te démolir devant tout le monde. Mais quand je le fais dans l'intimité, je suis en train de dire je veux t'aider, je cherche pas le mal. Hein, c'est rare où les gens viennent tout seuls, comme ça ils te viennent dans un coin et puis tu dis, tu sais, t'es un voyou. Non, ils vont le dire, et quand ils vont le dire devant tout le monde. T'es un voleur, un menteur, moi je te connais depuis longtemps. Parce que le but c'est de détruire, de démolir l'image, souiller l'image de quelqu'un. Alors, vous savez... Donc, souvenons-nous de cela aussi en tant que frères et sœurs. Hein? C'est comme ça que le Seigneur nous a appris, et c'est comme ça que se comporte. Et quand on est devant les gens du monde, eh bien, on est frères et sœurs. Ouais. Et puis, quand les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Il a dit, quand vous allez prier, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Ça veut dire que c'est ton Père et c'est mon Père. Donc tu ne peux pas critiquer mon père parce que c'est le tien aussi. Je me rappelle en tant que gamin, des fois, j'étais le grand frère. Hein. Alors, en général, c'est les grands frères qui font ça. Et ils traitent le petit frère d'un nan. Alors le petit frère, il va voir maman, il dit, il dit que j'étais un nan. Et ma mère, ce qu'elle disait quand on faisait ça, elle disait, mais moi je suis sa mère. Alors, non, bon, je ne voulais pas dire que ma mère était une ânesse. Hein. Et c'est comme ça qu'elle me corrigeait. Elle dit, si on a un même père, alors on ne peut pas insulter le père de l'autre. Hein? Quand on est frère et sœur, on s'encourage. Et l'apôtre Paul s'adressait à ses Thessaloniciens et disait, frère. Alors, voilà, dans ces premiers versets-là, les versets 1 et 2 en particulier, alors l'apôtre Paul, premièrement, eh bien, il fait référence à les conditions dans lesquelles il est arrivé, dans l'état dans lequel il est arrivé à Thessalonique. Il dit, c'est vrai, on n'était pas en très bon état quand on est arrivé. Mais, il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que le témoignage qu'on a porté, il a donné de bons résultats parmi vous. Tout de suite, on comprend. Ça veut dire, c'est pas l'état dans lequel je suis qui donne de la réussite au témoignage de Dieu. La puissance n'est pas dans mon état. La puissance est dans la parole elle-même. Il a dit, le témoignage a été encourageant auprès de vous. Il dit, c'est vrai, il dit, frère, notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, il dit, c'est vrai qu'on est venu chez vous de Philippe. Il dit à Philippe, c'est vrai, on est arrivé un jour de semaine, on est arrivé, on nous a posé quelques questions, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques femmes juives qui se réunissaient à côté de la rivière. C'était une habitude des Juifs, quand ils n'avaient pas de synagogue, c'est de se réunir près de la rivière, parce que c'est ce qu'ils ont fait à Babylone. Quand ils étaient loin du temple, ils n'avaient pas de temple, eh bien ils descendaient vers les rivages de la rivière, et c'est pour ça qu'il y a même des chants dans Ézéchiel qui font référence au bord du fleuve. Mais il dit, j'étais au bord du fleuve. C'est là où les Juifs se réunissaient. Alors là, il y avait quelques femmes qui se réunissaient près du fleuve à Philippe. Et Paul et Sylvain et puis Timothée se sont rendus là, près du fleuve. Ils ont trouvé ces femmes. Elles ont commencé à parler, à prier avec eux. Et puis certainement que les femmes étaient contentes qu'il y avait quelqu'un pour les enseigner et leur rappeler des vérités de la parole. Et donc, Et ce qui est arrivé, c'est que Lydie, qui était une commerçante et qui vendait du pourpre, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire c'est une teinture, c'est un mollusque qu'on utilisait pour teindre les vêtements en pourpre. Hein, donc elle était commerçante, c'était son commerce. Et elle est venue au Seigneur. Hein, c'était une femme qui réussissait dans le commerce. Et donc elle avait une grande maison. Et puis alors elle a dit à Paul et ses hommes qui l'accompagnaient de venir. Ils ont prêché la parole chez elle. Il y a du monde qui est venu. Sa famille à elle sont venus au Seigneur. Il y a certainement des serviteurs, des esclaves, du monde, hein, qui pas tout le monde, dans les grandes maisons, hein, vous savez, de l'époque. Et en fait, une église s'est créée dans cette maison. Parce que c'est tout ce qu'il fallait, hein, c'est que d'avoir quelques chrétiens qui étaient baptisés, hein, ils ont été baptisés après avoir cru, et donc une église a été formée. Bon, le travail a continué, et un jour, l'apôtre Paul se promenait à Philippe, et puis il y a cette femme qui est possédée d'un démon de Python, hein, qui tout d'un coup commence à les suivre, et à dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant. Écoutez-le. Et bon, je ne sais pas combien de temps vous supporterez que quelqu'un derrière vous, même s'il dit vrai, hein, moi, si je promène au marché, il y a quelqu'un derrière qui dit, ça, c'est Monsieur Barnes. Il habite à Puget. Ça, c'est Monsieur Barnes. Il habite à Puget. Je ne sais pas combien de temps je supporterai ça. Et là, mais vous savez, il a supporté pendant 2 jours. Mais vous savez, même si c'était vrai, personne n'est venu au Seigneur. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se sert pas du témoignage des démons pour faire son œuvre. Et ne bénit pas le témoignage des démons, même si c'est vrai. Et donc, Paul a chassé le démon de cette dame. Et bon, ça lui a causé des problèmes parce que tout d'un coup, c'est des gens qui l'utilisaient pour gagner de l'argent. Bien tout d'un coup, ils ne gagnaient plus d'argent. Et quand on touche au porte-monnaie de quelqu'un, il réagit. Hein. Et tout d'un coup, là, Paul et Silas se retrouvent en prison. On les bat de verges, de bâtons. Et puis ils sont en prison. Et puis dans la prison, ils sont jetés au fond de la prison. Et vous vous souvenez, hein, qu'après, pendant la nuit, ils ont commencé à chanter. Et il y a eu un tremblement de terre assez unique. Hein, c'est normalement, parce que le tremblement de terre était de telle manière que toutes les chaînes qui étaient scellées dans le mur se sont défaites. Toutes les chaînes ont cassé. Les portes se sont ouvertes, mais le bâtiment n'est pas tombé. Ça, c'est un tremblement de terre un peu spécial. Et tous les hommes sont descendus, les prisonniers sont descendus pour écouter Pierre. Et le geôlier, le gardien, quand il a vu la porte de la prison ouverte, il était sûr, hein, vous savez, vous arrivez dans le jardin, vous trouvez votre cage de lapin avec la porte ouverte, c'est sûr qu'il n'y a pas de lapin. Hein. Et il était sûr qu'il n'y avait plus rien. Mais Paul lui dit non, te tue pas, parce que lui, s'il manque quelqu'un, c'est lui qui comprend. Alors il a préféré se tuer lui-même que se faire laisser tuer plus tard. Et Paul lui dit non, on est tous là. Il dit, comment vous êtes tous là? Attendez, la lumière, vite, il faut que je voie ça. Et on lui donne de la lumière, il rentre là-dedans, et puis il compte. Ah ouais, ils sont tous les 15 et ils sont là. Je ne sais pas s'il y avait 15, hein, mais en tous les cas, tous les prisonniers sont là. Et certainement, Paul, il avait parlé déjà de Jésus. Hein. Mais il n'avait pas écouté. Il a dit, laisse-moi tranquille, moi, j'ai pas besoin de ton Dieu, de tout ça. Mais là, quand il se trouvait, il tremblait comme ça. Là, il a dit, Paul, c'était comment quand il faut être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Je ne me souviens plus que ce que tu as dit. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et l'homme, il a cru. Et immédiatement, eh bien, ils l'ont baptisé et le geôlier leur a lavé le dos, hein, les plaies, lavé le sang, nettoyé un petit peu comme il pouvait. Et puis ils ont mangé. Pendant la nuit, le soir même. Mais le lendemain matin, quand les responsables ont su que Paul était un Romain, ils ont eu peur. Parce qu'ils avaient maltraité un Romain sans jugement normal. Donc ils ont dit, écoute, Paul, toi, partez. Vous ne faites pas de problème, vous ne faites pas de problème. Hein? Vous partez tranquillement. Et c'est dans cet état-là qu'ils viennent à Thessalonique. Vous savez, les coups de bâton et tout, les plaies, le sang, tout ça, ça ne guérit pas hein, en 24 heures. Il y avait peut-être 60 km à faire, mais ce n'était pas pour ça qu'ils se sentaient bien en forme quand ils sont arrivés à Thessalonique. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand on est arrivé chez vous, eh bien, on ressentait encore les outrages qu'on avait reçus à Philippe. On avait encore mal dans le dos. Quand on est venu prêcher l'évangile chez vous, ça montre quelque chose de l'apôtre Paul. Hein. Il y a une force là, quelque part. Parce que moi, si j'ai pris des coups de bâton quelque part, eh bien, même si je suis bien disposé, donnez-moi quelques jours de rétablissement. Hein. Quelques jours de convalescence, que je me sente mieux au moins. Alors, mais c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, au verset 2, il dit « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile. » Ah, ben oui, il a dit, on était faible, c'est sûr. On avait pris des outrages, on était en mauvais état. Mais on a pris de la force dans notre Dieu. Oui, ils ont subi les outrages à Philippe. Ils étaient, leur dos brûlait toujours, hein, avec les coups de bâton, parce qu'en général, ils ne les faisaient pas gentiment. Hein, ce n'était pas avec des foulards qu'ils les tapaient. Hein. Et le dos qui brûle encore, et puis à l'époque, il n'y avait pas les pommades, il n'y avait pas tout le soin qu'on peut donner au corps aujourd'hui. Hein. À l'époque, peut-être, au mieux, on mettait un peu d'huile, et puis un peu de sel pour désinfecter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu du sel dans une plaie, mais ça ne fait pas chanter. Hein. Et alors, ils arrivent, mais cette force, il a dit, on a eu une force, c'est vrai, on a eu une force. Et cette force, où est-ce qu'ils l'ont eue? En Dieu. Mais remarquez que, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la prison, il n'y avait que deux hommes. Quand ceux qui étaient là, à Philippe, il y avait trois hommes. Il y avait Timothée aussi, parce que Timothée vient avec eux. Mais Timothée n'était pas là. Peut-être est-ce que Dieu a jugé que Timothée ne supporterait pas le traitement là dans la prison. Et donc Dieu s'est débrouillé pour qu'il ne soit pas là. Vous savez, Dieu ne nous tente pas, ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. S'il voit qu'on n'est pas capable de traverser, eh bien, il ne nous fait pas passer. Si on peut faire confiance à Dieu, il sait doser nos capacités. Et donc, si nous devons passer par une épreuve, si on voit qu'il nous fait passer par une épreuve, c'est qu'il a jugé que je suis capable. Peut-être qu'il n'y aura pas seulement de l'eau jusqu'au genou, hein, peut-être qu'il y aura de l'eau jusque-là, mais je passerai, parce qu'il a jugé que je pourrais. L'apôtre Paul arrive. L'apôtre Paul, on a souvent l'impression que l'apôtre Paul, il est fort. Nous, il dit, ouais, oui, mais lui, il était fort. Nous, moi, je ne suis pas comme lui. Oh, l'apôtre Paul n'était pas toujours fort. Là, il dit, mais j'avais encore mal quand même. Hein. Et je vois dans 2 Corinthiens, attendez, non, acte 18, Paul, quand Paul était à Corinthe, donc c'était après Thessalonique, Paul est là, et il a prêché depuis déjà quelque temps, Et puis, à Corinthe, ça ne démarrait pas. Il avait l'habitude, il va quelque part, au moins il y a des âmes qui sont sauvées, il y a une église qui s'établit. Mais là, à Corinthe, l'apôtre Paul, il commence à se décourager. Et alors, au verset 9, eh bien, Dieu va l'encourager. Il dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, il dit, ne crains point, mais parle, ne te tais point. car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il demeura 1 an et 6 mois. Si Dieu lui dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, c'est parce que, dedans, Paul avait peur. Hein? On ne dit pas à quelqu'un qui n'a pas peur, on ne lui dit pas, n'aie pas peur, c'est bon. Donc c'est quelqu'un qui tremble, on lui dit, écoute, tremble, n'aie pas peur. Hein? C'était toujours, vous avez vu dans la Bible, chaque fois qu'il y a un ange qui apparaît à quelqu'un, ils ont peur. Et l'ange dit, non, paix avec vous. Voilà. Et là, si Dieu dit à Paul, non, n'aie pas peur, je suis avec toi, il y a du travail qui vient, ils ne vont pas te détruire, ils ne vont pas te tuer, ça va. Eh bien, c'est parce qu'il a fait peur de cela. Hein? L'apôtre Paul, ce n'est pas que c'était un homme fort, mais c'est un homme qui savait où chercher sa force et qui pouvait puiser en Dieu. Donc, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas pour les forts, c'est pour ceux qui savent se tourner vers Dieu quand ils sont faibles. Qui sont prêts à admettre qu'ils sont faibles. Dans la vie, des fois, les gens ils disent « Ah non, mais moi, je n'ai pas besoin de croire en Dieu, hein, c'est une béquille, c'est pour les faibles. Ah » ben, si celui à qui il manque une jambe, et puis dit « Non, non, moi, je veux être fort, là, je veux pas une béquille. Ben, » Non, si tu as besoin d'une, prends une. Comme ça, tu peux marcher. Si j'ai besoin de Dieu, je le reconnais, et donc je crois en Dieu. Et en fait, pour Dieu même, ça l'arrange qu'on soit faible. Parce que si je suis faible et pourtant je traverse, eh bien tout d'un coup les gens ils disent « Mais d'où est-ce qu'ils trouvent cette force ?» Il vient de Dieu. Ça donne la gloire à Dieu. Dieu est glorifié plus par des gens qui sont faibles que par des gens qui sont forts. Moi, j'ai envie d'être... Oui, mais c'est, après, la gloire, elle vient à moi. Tandis que, quand je suis faible, et quelqu'un dit, voilà, cette dame-là, je me rappelle, j'ai commencé mon ministère, j'étais aux États-Unis, et il y avait un jeune couple, ils avaient des petits-enfants, la femme était très dépendante de son mari, elle faisait rien sans lui, et puis lui, il est malade, et puis il est mort. Et on s'est dit, oh là là, comment elle va faire ? Elle ne fait rien sans lui. Comment elle va vivre sans lui ? Eh bien, c'était étonnant, parce qu'elle connaissait le Seigneur. Eh bien, c'est très bien passé. Le Seigneur lui a donné la force. Et jeune veuve, elle a élevé ses enfants. Et nous l'avons vu des années plus tard. Et ses filles sont mariées. Et Dieu lui donne la force. Ce n'est pas une question de combien je suis fort, c'est combien si je sais à qui m'adresser quand je suis faible. C'est ça qui fait la différence. Tout à l'heure, on a lu, vous vous rappelez, l'apôtre Paul lui a dit, j'ai appris à être content dans la disette et dans l'abondance. Il a dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de moi, parce que je dépends de lui. Et il m'apporte ce dont j'ai besoin quand je l'ai besoin. Donc, l'œuvre de Dieu ne se fait pas par les forts, mais par les faibles, afin que leur force soit en Dieu. Hein, c'est très important. Je dis, mais moi, je n'ai pas grand-chose, je ne sais pas faire grand-chose. Eh bien, justement, comme ça, la gloire de Dieu sera grande. Si vous avez une course Formule 1 et puis tous arrivent avec de grosses voitures et vous arrivez avec une Clio et vous remportez la course, les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Waouh, c'est un chauffeur extraordinaire. Mais si vous arrivez avec une grosse voiture, ils disent bah, il a une bonne voiture. Mais si vous arrivez avec une voiture qui n'a pas, il dit, ça doit être un bon chauffeur. Vous arrivez à un mécanicien qui arrive et il a juste un petit sac Carrefour avec quelques outils et il répare votre voiture. Vous dites, oh, ça c'est un bon mécanicien. Il sait comment travailler. Il y en a un autre qui a tout le garage et puis la voiture elle sort de là et elle n'est pas réparée. Hein, ça vous arrive aussi, hein, ils ont des beaux garages et vous n'êtes pas content. Et puis il y a un autre qui arrive avec quelques outils dans un sac Carrefour et puis il vous met... il a autre chose, mais il sait écouter, il sait entendre, il vous dit exactement où c'est. Vous savez, le Seigneur dit, c'est pas dans votre force. Dieu aime se servir des faibles. Et il dit ça, c'est pas pour se consoler, c'est pour nous encourager. Et l'apôtre Paul dit, la force, on est arrivé faible, mais on a puisé notre force en Dieu. Il a dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu, pas en autre chose. On ne s'est pas dit, Sylvain, tu es un homme. Et l'autre a dit, toi aussi tu es un homme. Hein, pas. On y va. Oui, ça, on peut faire ça, mais hein, c'est... faites ça dans la forêt quand vous rencontrez un sanglier, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Hein. Vous allez courir comme un lapin. Il faut plus que ça. Hein. Il y a un docteur Paul Tournier qui a écrit un livre intitulé « Les hommes, les forts et les faibles ». Et il a décrit, il parlait de dans la vie, on a... Dans la vie, tout le monde est catégorisé comme un fort ou un faible. En fonction des circulations, des circonstances, de qui est là, vous êtes un fort, vous êtes un faible. Hein, vous mettez une table de ping-pong, il y a 15 jeunes qui ne se connaissent pas, et puis il y en a un qui dit à l'autre, alors tu sais jouer au ping-pong? Il dit, oh, je ne sais pas. Il n'y a personne qui veut dire pourquoi. Ben, ça dépend avec qui il joue, s'il est fort ou s'il est faible. Et il a peur de dire. Vous savez, on est fort, on est faible, c'est en fonction de avec qui on est. Mais dans le monde, il y a toujours il y a les forts. Bon, après, il y en a qui font, ils paraissent forts, mais parce qu'ils sont 10. Mais tu prends un à la fois, il est courageux comme un lapin. Il y en a qui se sentent forts parce qu'ils ont de l'argent dans la banque. Il y en a qui se sentent forts parce qu'ils ont des connaissances à la mairie. Il y en a qui se sentent forts parce qu'il est de la bonne nationalité, hein. Il y en a qui se sentent forts parce qu'il est d'une bonne famille, hein, son nom de famille, ça porte quelque chose. Il rentre dans un bureau, il dit « je suis un... Oh, » oui, bien sûr. Et puis vous êtes un autre, vous avez un autre nom, il dit « je m'appelle comme ça », il dit « comment ?» Bon, écoute, asseyez-vous là, on va voir. Et c'est sûr, c'est la vie, elle est comme ça, vous l'avez connue, hein, vous savez que c'est comme ça. Et ça, il y a... Après, il y a ceux qui essayent de bluffer. Hein. Il essaie de venir comme ça. Et puis, il espère qu'on ne le teste pas. Parce que si jamais on le teste, hein, vous les voyez arriver, des jeunes, ils arrivent dans la cour, ils sont tous forts comme ça. Tous les jeunes garçons, hein, ils arrivent comme ça, ils sont tous forts. Mais le jour où il y en a un qui se présente pour se battre, lui, il disparaît. On fait les coques, on sait faire les coques. Mais bon, après, on n'est pas tous aussi forts. Puis après, il y a ceux aussi qui essayent de paraître aussi jeunes que possible. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est une force aussi. Hein? Alors, on met de la peinture sur le visage. Ça ne s'appelle pas de la peinture, mais... Et puis, on a des vêtements, et puis on met pantalon serré, basket, et puis on essaie de marcher avec un petit... pour faire jeune, parce que comme ça les jeunes, ça a du poids. Hein, ça attire l'attention. Hein. La petite mémé, personne ne la remarque. Mais quand tu arrives, tu es jeune comme ça, belle, et ça passe. Mais vous savez, et notre vie, c'est constamment ça. Fort et faible. Fort et faible. Mais vous savez, quand on arrive dans la famille de Jésus-Christ, il n'y a plus une question de fort et faible. Tous, on est faible. Mais la force se trouve en Jésus-Christ. Et ce qui nous donne la possibilité d'avoir du courage, nous donne la possibilité d'avoir cette force qui nous permet de continuer chaque jour, de sortir le matin, même si je sais que je suis le seul chrétien, je sors. Pourquoi? Parce que je puise ma force. Il nous dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, Éphésiens 6:10. Pourquoi? Éphésiens 6:10, et ben si je lis la suite, hein, il n'a pas dit fortifiez-vous, allez, allez, donnez-vous du courage. Voilà, moi, ça y est, je suis prêt. Non, non. Il dit revêtez les armes de Dieu. Hein, c'est dans Éphésiens 6. Revêtez les armes. Mettez le casque du salut. Mettez tout ça en ordre dans votre vie. Et puis après, vous n'avez pas à craindre. Hein, ni les flèches enflammées du malin, ni les attaques, ni rien du tout. Pourquoi ? Parce que vous avez, je ne vais pas découvrir, un jour on étudiera les armes de Dieu, mais c'est Éphésiens chapitre 6, mais il dit, fortifiez-vous, c'est-à-dire, mettez les armes qu'il faut. Je me rappelle une fois, on était avec un apiculteur pour aller nous approcher d'une ruche. Eh bien, vous savez, si j'ai beau faire le courageux comme ça, aller sans tenue, j'ai beau faire le courageux, hein, il y a un moment où je vais commencer à courir. Hein, que dès qu'elles vont sortir, ces abeilles, moi je vais commencer à courir. Hein. Ce n'est pas la peine de faire le courageux, ça ne fait que s'empirer. Mais si je mets la tenue, après je viens, on ouvre la ruche, les abeilles, mais on ne craint rien, pourquoi on a la tenue? Mais en tant que chrétien aussi, hein, si je mets les armes de Dieu, si je mets la tenue que Dieu me donne, qui est suffisante, je n'ai pas à craindre. Vous savez, dans le jardin de Gethsémané, les disciples, quand on est venu pour prendre Jésus, eux, ils sont partis, il y en a même un qui s'est sauvé tout nu. Hein. On a attrapé son vêtement et comme il avait juste un drap sur lui, whoop, il s'est sauvé dans la nuit tout nu. Il s'appelait Marc. Hein. Ah, on n'appelle pas ça du courage. Mais après, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, je vous donnerai une puissance venant d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Après ça, Pierre et Jean se tiennent devant les Sanhédrins, puis rendent témoignage. Et puis les Sanhédrins disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces hommes-là? C'est eux qui sont embêtés. Pourquoi ils ont dit ces gens? Ils ont du courage, ils ont leur force. Pourtant, c'est des Galiléens, c'est des nuls du Nord. Ce n'était pas les Belges. Hein. Mais ils ne savaient pas quoi faire avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient reçu la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils avaient la force de Dieu. Eux, ils ont dit, ouais, c'est des Galiléens. Mais ils ont été avec Jésus, c'est autre chose. Oui, peu importe que le monde nous mette au rang des faibles, prenons de l'assurance en Dieu. Il est notre force. Nous pouvons aller avec courage. Mais pourquoi est-ce qu'il nous donne cette force? Ce n'est pas pour qu'on soit fort et puis qu'on puisse marcher avec les épaules hautes. Mais il a dit, nous avons pris de l'assurance en Dieu, c'est pour pouvoir proclamer le message de Dieu. Il nous donne la force, ce n'est pas pour qu'on paraisse fort, mais c'est pour qu'on puisse être des témoins pour Dieu. C'est s'il nous donne cette force, c'est pour qu'il nous aide. Alors, Paul et Sylvain et Timothée, ils n'étaient pas obligés de, même s'ils avaient pris cette force et le Seigneur a fait la force, ils n'étaient pas obligés d'être des brutes dans Thessalonique pour prouver qu'ils étaient, ils venaient de Dieu. Parce, au contraire, il nous dit, on l'a lu tout à l'heure, il est dit, on est venu parmi vous avec douceur, comme une nourrice qui s'occupe d'un bébé. On a été doux avec vous. C'est au verset 7, il dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants. On a été doux avec vous. Et c'est pour ça, hein, quand on est fort, hein, les gorilles, et quand ils voient un petit chat, il n'est pas obligé de faire sa force. Non, il est tendre. Il touche gentiment. Vous avez un gros chien et puis il voit un petit chat, et puis il fait pas la brute, il vient gentiment et il lèche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin, la force en toi, tu n'as pas besoin d'être brute, c'est celui qui est faible qui fait la brute, hein, parce qu'il se sert de ses propres forces. Et on voit très vite chez quelqu'un si sa force elle vient de lui ou si elle vient de Dieu. Si elle vient de Dieu, il est doux. Si ça vient des hommes, eh bien, il commence à donner des ordres, à crier, à critiquer, à bousculer. Et c'est autre chose. on voit vite la force qui vient de Dieu est douce, tendre, elle cherche le bien, elle n'écrase pas, elle relève. Il a dit aussi, il a dit, on a travaillé pour vous. Il a dit, on a travaillé jour et nuit pour ne pas être à votre charge. Vous savez, il y a des gens maintenant qui viennent au nom de Dieu, comme ça, oui, je suis prophète, je suis envoyé de Dieu, tout ça, et puis vous me donnez de l'argent, lui se balade dans une grosse voiture, et puis vous, vous êtes là en train d'essayer de vous en sortir avec votre baguette et votre jambon, là. Et lui, il est en grosse voiture, il mange au restaurant. L'apôtre Paul, il n'a pas fait comme ça. Il a dit, nous, on a travaillé de nos promesses pour ne pas être une charge pour vous encourager. Même si on était arrivé fatigué. Ça, c'est au verset 9. Et il dit au verset 10, il dit, notre conduite, elle a été sainte, juste et irréprochable. Vous ne pouvez pas nous accuser de quelque chose. Parce qu'on a puisé les forces. Quand c'est les forces viennent de Dieu, le comportement est autre. Et Paul, il a dit... Et on a prêché l'évangile avec puissance. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcé. Ça veut dire que les gens, quand ils l'ont entendu, ils étaient touchés. Hein, la force était dans la parole et pas dans l'orateur. Et tout comme l'apôtre Paul à Philippe, quand il était dans la prison, et le dos qui brûle, c'est la nuit, la paille, elle n'est pas propre. Ils sont mal assis et tout ça, et ils chantent. Et quand le geôlier vient et qu'il tremble et qu'il a envie de se tuer, Paul lui aurait pu dire, ah ben oui, avec la manière dont tu nous as traités, c'est bien fait pour toi. Hein, maintenant tu trembles, hein? Non, Paul a été doux. Il a dit, écoute, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et cette nuit-là, il y a une église qui s'est créée dans sa maison. Pourquoi ? Parce que c'est la force de Dieu, pas la force d'un homme, qui a agi et qui a fait l'œuvre. Et ce n'était pas après que le geôlier lui donne à manger que Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. D'abord, le geôlier, il a lavé. D'abord, Paul lui dit comment croire. Il croit, et lorsqu'il croit... Et qu'après il est baptisé, après c'est là où le geôlier vient lui laver le dos. Hein, si vous regardez l'ordre des choses. C'est pas parce que le geôlier tout d'un coup est devenu gentil que Paul devient gentil. Paul était gentil, quel que soit le comportement des geôliers. Hein, ça c'est l'œuvre de Dieu. Hein, et si nous sommes frères et sœurs et enfants de Dieu, alors on se comporte comme des enfants de Dieu et pas comme le monde. Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, hein, physique, n'importe, eh bien je dois proclamer le message de l'Évangile et je dois déclarer l'œuvre de Dieu en moi. Et c'est ça qui est la force. Quand les gens ne peuvent pas expliquer mon comportement, c'est une force. Parce que là, ils cherchent. Ils disent, mais d'où tu vas? Comment tu arrives? Tu as toujours le sourire. Pourtant, je sais que ce n'est pas facile ta vie. Et tu as tout le temps le sourire. Comment tu fais? Eh bien, je parle à mon Dieu tous les matins avant de sortir. Ah oui, mais ça va. Je m'appelle à Saint-Denis, il y avait le voisin, là, pharmacien, il était juste à côté de l'église, là. Et il a vu quand on a commencé, c'était un petit groupe. Et puis après, il a vu grandir, et puis il a vu du monde, et toutes les nationalités, et tout ça. Et puis il a dit... Un matin, j'arrive de bonne heure, il me dit, il est sorti là, je ne sais pas s'il a sorti ce qu'il avait sorti, mais il me dit, comment vous faites? Je dis quoi? Il dit, mais comment vous faites rassembler ces gens? Alors, c'est l'œuvre de Dieu, hein. Il dit, non, dis-toi, c'est... Il dit, parce que moi j'étais un officier dans les légions étrangères, on avait des gens de toute nationalité, ben nous on avait des problèmes, mais on ne dirait pas que vous avez des problèmes. J'ai dit, oui, mais c'est parce que Dieu fait une œuvre. J'ai dit, mais j'ai pas d'autre explication, hein, c'est Dieu. Après, c'est à lui de croire ou pas croire. Mais l'explication, c'est là. Et il a vu avec ses yeux d'aveugle, d'inconverti, il a vu. Hein, parce qu'on peut voir l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir dans notre vie. Ils soupçonnent que je suis chrétien avant que je le dise, parce qu'ils disent, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu ne vis pas comme les autres. Tu ne réagis pas comme les autres. Tu ne te comportes pas comme les autres. Tu ne ris pas toujours quand les autres rient. Tu ne te moques pas. Qu'est-ce que tu es ? Moi, j'aime Jésus. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Et on peut parler. Que le Seigneur nous aide à être. Hein, cette transformation qui a pu se faire chez l'apôtre Paul, qu'elle se fasse chez nous. Lui, avant, il était violent, orgueilleux et tout. Il avait tous les problèmes possibles. C'était un intégriste religieux. Donc, il est devenu violent. Et Dieu l'a transformé en un homme qui était doux, qui pouvait traiter les gens comme une nourrice traite un bébé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu et gloire à Dieu. Et il veut faire la même chose pour chacun d'entre nous. Prions.